Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On célèbre cette année les 1300 ans de l'Andalousie arabe et Franck Ferrand s'est mis cet après-midi sur Europe 1 au parfum de Grenade. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Parfum de myrte et d'eau de jasmin, vous savez, pour évoquer un moment de perfection dans la civilisation. Dans son dictionnaire amoureux de l'islam, Malek Chebel, qui sera tout à l'heure notre invité, commence ainsi l'article qu'il consacre à l'Andalousie. D'une certaine façon, on peut dire de balade à l'Andalous qu'elle fut le rêve éveillé des Arabes. Un rêve grandeur nature, une sorte de conte de fées pour adultes, vécu en temps réel, c'est-à-dire durant 7 siècles.
7 siècles de vécu, 6 siècles de mémoire. Pour ceux d'entre vous qui voudraient poser des questions à Franck Ferrand, à Malek Chebel et à Gabriel Martinez-Gros, il vous le suffit d'aller sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr.
Voilà, et pendant ce temps, nous partons à la rencontre d'Averroès et d'autres esprits éclairés.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'était donc il y a 13 siècles, en 711, juillet 711, un corps expéditionnaire de 7000 berbères environ, sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, met un pied en Espagne et il établit sa tête de pont sur le roc aussitôt appelé Djebel Tariq, je dis aussitôt non d'ailleurs, qui sera appelé Djebel Tariq, Gibraltar évidemment. Puis les berbères foncent sur Algésiras, entre Algésiras et Cadix, ils tombent sur des troupes réunies à la hâte par le roi Visigoth Rodrigue et là a lieu un premier affrontement extrêmement violent qui s'engage sur les bords du Guadalete. Cet affrontement tourne vite à l'avantage des cavaliers berbères qui sont vêtus de burnous sur leurs petits chevaux nerveux. Il va falloir que les populations de substrat s'habituent à les voir passer. Ils font tournoyer, vous savez, leur cimeterre. On est là dans le folklore, si je puis dire. Ils mettent bientôt les Visigoths en déroute. En vérité, disons-le, ce raid de 711 n'était pas le premier la première des razzias arabo-berbères en terre chrétienne d'Espagne. Du côté de Tanger, on savait depuis longtemps les rois Visigoths empêtrés dans toutes sortes de querelles, de palais. On les savait entourés d'une administration inerte, largement incompétente. On les savait circonvenus par un clergé en partie corrompu. On le savait d'autant mieux que les Juifs malmenés par ces rois Visigoths renseignaient depuis longtemps l'émir de Tanger, lui-même vassal du calife de Damas. Climat d'anarchie donc, tyrannie fiscale, intolérance religieuse, décadence morale sur laquelle il faudrait du reste revenir. Tout semblait favoriser du côté espagnol une invasion musulmane. Je ne dis pas vraiment arabe, car c'est bien de berbères qu'il s'agit, en tout cas dans un tout premier temps. Du point de vue des envahisseurs, les Visigoths sont des Vandales, d'où le terme Al-Andalus, qui donnera son nom à l'Andalousie. Du reste, dans le camp d'en face, on commet le même genre d'approximation, puisque pour Rodrigue et ses lieutenants, les envahisseurs sont des Sarrasins du mot Sarakenoi, que les Byzantins et les Grecs employaient pour désigner les Arabes. Dans l'histoire, ils entreront évidemment sous le nom de Maures, et on parlera bientôt de Maures, de civilisation mauresque. Nous reviendrons tout à l'heure évidemment sur toute cette terminologie qui a son importance. Bientôt, les Sarrasins, allons-y, employons l'expression, s'emparent de Séville en attendant Cordoue, puis Tolède, et Tariq est bientôt rejoint par l'émir de Tanger qui veut évidemment sa part de laurier. Il s'appelle Moussa, cet émir. Quand je dis sa part de laurier, il veut surtout sa part du gâteau.
Sur Europe 1 de Bachraf Zidane, signé Enrico Macias, c'est l'ensemble Fundok.
Donc l'émir Moussa de Tanger débarque sur la côte, lui. Il franchit la Sierra Morena, il conquiert Mérida, il s'empare de Salamanque et il va retrouver Tariq sous les murs de Tolède. L'Espagne est annexée, si l'on peut dire. En tout cas, elle est investie assez rapidement au nom du calife, annexée à l'Empire islamique. Et très vite, le petit peuple s'en accommode. Parce qu'il faut dire que le régime féodal de Tolède, gangrené de toutes parts, n'était guère de nature à susciter les regrets. Surtout parmi les serfs, évidemment, qui ont été tenus en esclavage depuis si longtemps avec la bénédiction de l'Église ou en tout cas avec son accord aveugle. Les chrétiens, devant cette inendigable poussée arabo-berbère, s'enfuient dans les montagnes, surtout vers le nord de la péninsule. Ils vont développer quelques poches de résistance. C'est tout le nord de l'Espagne, en Biscaye, en Navarre, en Aragon, dans les Asturies. Or, si les envahisseurs ne viennent pas à bout de ces noyaux de résistance, c'est qu'ils sont affaiblis eux-mêmes assez vite par une crise dynastique, et ça c'est d'une importance considérable. Vous imaginez bien qu'on va y revenir, bien entendu. C'est toute l'histoire d'Abderrahman, de la famille des Omeyyades, qui au départ commandait depuis Damas l'Empire arabe quand il est détrôné par un prince abbasside. Il s'enfuit en Espagne, il s'empare de Cordoue. Je dis ça comme si tout ça s'était fait, c'est beaucoup plus complexe en réalité, mais j'essaie de donner les grandes ligne de l'affaire, et il prend là la place de Youssouf, un abbasside, plutôt favorable aux abbassides. C'est la rupture entre l'Occident et l'Orient arabe, entre le califat abbasside de Damas, qui bientôt sera donc à Bagdad, et le califat omeyyade de Cordoue. C'est aussi le début de la primauté de cette cité reine de Cordoue, siège de l'émirat, bientôt siège du califat. On arrive, on entre, on visite Cordoue dans un instant.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et le récit d'Au cœur de l'histoire retrace pour nous aujourd'hui sur Europe 1 les beaux jours de l'Andalousie arabe, Franck.
Alors, on y arrive à ces beaux jours. Au départ, c'est toujours un peu violent, les conquêtes. Vous savez, avec la création du califat omeyyade, donc dès 719, Cordoue devient une capitale. Abderrahman lance les travaux de la célèbre mosquée. Vous savez, cette mosquée incomparable, elle sera sans cesse agrandie, enrichie jusqu'à l'an 1000. À cette époque, Cordoue comptera jusqu'à Je suis dans le calendrier chrétien, vous l'avez compris. À cette époque, Cordoue comptera jusqu'à 800 000 habitants, 300 mosquées, des palais magnifiques, des hammams. Il y a l'eau courante, l'éclairage urbain dans cette ville, sans parler évidemment de la célèbre université de Cordoue. Par ailleurs, et sur un plan plus prosaïque, Cordoue est, vous le savez, la ville de la maroquinerie, d'où l'expression, d'où le mot cordonnerie, par exemple, etc. Le cuir de Cordoue, qui fera les beaux jours de la décoration renaissante et au XVIIe siècle. Le palais est construit en 936 par Abderrahman III. Il est construit essentiellement pour sa favorite Azahara. Il faut imaginer des voûtes soutenues par quelques 43 000 colonnes et colonnettes de marbre, des marbres italiens et tunisiens, polychromes. Tout ça peut abriter 12 000 personnes et sera détruit, au cours des guerres civiles aux alentours de 1010. Parce que ce qu'il faut savoir, en effet, c'est que peu après l'an 1000, l'arrivée des berbères almohavides et almohades, d'abord almohavides puis almohades, fera perdre à Cordoue sa prééminence. Mais si vous comptez de 720 environ jusqu'à 1031 avec la disparition des Omeyyades, cette primauté de Cordoue aura tout de même duré trois siècles qui débouchent sur l'apogée de la fameuse civilisation arabo-andalouse. Je cite le dictionnaire amoureux de Malek Chebel à l'article « Andalousie ». Si l'Espagne musulmane a été au X et XIe siècle l'épicentre du monde civilisé, elle le doit, nous dit Malek Chebel, elle le doit en grande partie à trois villes mythiques qui, pour partie, ont gardé leur charme d'antan: Grenade, Séville et Cordoue, que les Arabes appellent, alors attention, Gharnata, Isbiliya et Courtouba. À celui qui n'a jamais vu la mesquita de Cordoue avec ses centaines de colonnades, ses arcs doublés et ses chapiteaux, il sera difficile de parler de jaspe, de brèches violettes et de stuc sur remontée d'or ou de pierres précieuses incrustées dans la pierre. Comment, sans frissonner d'admiration, décrire cette ville, ce qu'elle est devenue, mais surtout ce qu'elle était, au cœur de toutes les romances, capitale andalouse incontestée, visitée par l'intelligentsia judéo-chrétienne et musulmane pendant plusieurs siècles. Certains, et non des moindres, y sont nés. Et on cite là évidemment Averroès, Maïmonide ou Ibn Hazm. Cordoue est encore connue pour ses arbres fruitiers, cultivés dès le début du XIe siècle, l'oranger, le citronnier, le mandarinier, et ses nombreuses fleurs comme la rose de Damas, le jasmin et le laurier rose en particulier. Aujourd'hui, la Cordoue musulmane est symbolisée par sa mesquita, un imposant bâtiment situé au cœur de la cité espagnole et qui fut longtemps le centre nerveux de la couronne califienne. Au fil du temps, la mosquée d'Abdarrahman Ier a grandi et transformé de 833 jusqu'en 987 est devenu le monument le plus imposant du monde musulman après celui de la Mecque. À Cordoue, au Xe siècle, je suis la sortie du texte de Malek Chebel, à Cordoue au Xe siècle est instituée une exceptionnelle bibliothèque de quelque 400 000 volumes. Averroès dira encore au XIIe siècle « Si un érudit meurt et qu'on veuille vendre ses livres, on les porte à Cordoue où l'on est sûr de trouver acquéreur. » C'est un peu la Florence de l'Espagne musulmane que cette Cordoue. C'est une ville intégralement porté vers l'intellect. Le calife y est entouré de médecins musulmans, juifs et chrétiens venus de tout l'Empire, mais aussi de botanistes, d'astronomes, de mathématiciens et de philosophes. Un savant de Tolède au XIe siècle, Saïd al-Andalusi, rédige une histoire des sciences qui est une véritable mine de renseignements sur les travaux des savants, notamment des savants antiques. Mais naturellement, le plus connu des savants et philosophes musulmans est en tout cas pour nous en Occident le célèbre commentateur d'Aristote, c'est Ibn Rushd, que nous appelons Averroès, évidemment. C'est lui qui, d'abord à Cordoue, plus tard à Marrakech, expose la nécessité de l'usage de la raison dans l'islam. On peut citer son traité décisif sur l'accord de la loi religieuse islamique et de la sagesse. Je cite donc que la loi religieuse invite à une étude rationnelle et approfondie de l'univers. C'est ce qui apparaît clairement dans plus d'un verset du Coran comme celui-ci. Tirez donc la leçon des événements, vous qui êtes doués d'intelligence. C'est la sourate 59, verset 2. Le paradoxe d'Averroès, ce sera de faire finalement plus des mules dans l'Occident chrétien des XIIIe et XIVe siècles qu'en terre musulmane même. Les débats de l'averroïsme latin se poursuivront, notamment à Padoue jusqu'à la Renaissance. Et du reste, c'est essentiellement depuis la péninsule ibérique et grâce à la civilisation andalouse que la science arabe se diffusera dans l'Occident chrétien.
Extrait sur Europe 1, signé Enrico Macias et l'ensemble Fundok Xali Wainou Franck.
En fait, tout ça est directement inspiré d'anciennes compositions andalouses. Alors, le mathématicien Al-Khwarizmi va jouer un rôle majeur dans la diffusion de la numérotation décimale, vous savez, de l'usage du zéro, tout ça inventé par les Indiens. Du reste, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et c'est lui, al-Khwarizmi, qui va rendre l'algèbre indépendante de la géométrie. Et du reste, tous ces savants andalous, s'appuyant sur le savoir grec antique notamment, vont faire progresser la philosophie, ils vont faire progresser l'optique, la mécanique, l'astronomie en même temps. Ils se penchent sur la dynamique, sur la statique, sur l'hydrostatique. Vous savez que la langue française possède aujourd'hui encore quelques 600 mots d'origine arabe. Eh bien, la plupart sont liés aux sciences, aux techniques, à tous ces savoirs, des mots comme algorithme, azimut, almanach, algèbre, etc. On va y revenir dans un instant. Il y a quelques semaines, dans cette émission, nous avons parlé d'un jeune moine originaire d'Aurillac, en Auvergne. Vous vous rappelez ça, Julia? Il avait séjourné vers 967 en Catalogne espagnole, au monastère de Ripoll, où il allait découvrir dans des ouvrages arabes, dans des ouvrages andalous, les mathématiques, l'astronomie, etc. Les chiffres dits arabes, l'astrolabe, tout ça, Gerbert d'Aurillac devait les découvrir en Espagne et les apporter ensuite via Rome et puis plus tard via Reims, les apporter à l'Europe occidentale et les diffuser. En 999, il sera élu pape sous le nom de Sylvestre II. Ce sera le célèbre pape de l'an 1000. C'est amusant de voir comme toutes nos émissions finalement peuvent se répondre à partir d'un certain moment.
Les correspondances.
Alors, avant de donner la parole à nos invités, j'aimerais aussi faire une petite mention de l'extraordinaire poésie andalouse. Et j'ai entre les mains une très belle édition, c'est chez Sinbad, ça s'appelle Le Chant d'Al-Andalus, une anthologie de la poésie arabe d'Espagne. C'est une édition bilingue extrêmement soignée qui est un vrai régal à parcourir. Et je vous lis quelques vers seulement en traduction française, je vous rassure tout de suite. Je serais bien incapable de lire ce qui est sur la page de gauche, mais c'est une très belle calligraphie. Je vous lis quelques vers d'Ibn Khafaja. De la coupe jaillit un vin si rutilant que son afflux rivalisait avec les ondes et leur cours chatoyant. Au jardin, un rameau ployait sous ses fleurs rondes et l'oiseau, en extase, au comble du bonheur, se grisait de ciel clair. À travers l'horizon, le tonnerre grondeur dicta un mot sonore et la main de l'éclair transcrivit sa rumeur.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et on vous retrouve, Franck, avec vos deux invités sur Europe 1.
Oui, mes deux invités, donc Malek Chebel, qui est anthropologue et spécialiste du monde arabe et de l'islam, et qui est donc l'auteur, je le cherche là, voilà, du dictionnaire, je ne cherche pas Malek Chebel, je cherche l'ouvrage, le dictionnaire amoureux de l'islam, donc dans cette belle collection du dictionnaire amoureux chez Plon, et puis Gabriel Martinez-Gros, qui est professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université de Paris 10 Nanterre. Vous êtes un spécialiste d'Al-Andalus, et vous êtes l'auteur notamment de Ibn Khaldoun et les sept vies de l'islam, c'est chez Actes Sud et Sinbad, justement. Ça a été publié, ça, en 2006. On parle beaucoup, évidemment, à l'occasion de ce 13e centenaire d'Al-Andalus en ce moment. Et on évoque toujours ce qu'il y a de plus raffiné, de plus beau, de plus pacifique dans cette civilisation. Il ne faudrait peut-être pas oublier quand même la guerre de conquête et puis la guerre dite de reconquête. Enfin, tout ça est encadré par un peu de violence quand même, Gabriel Martinez-Gros.
Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'il existe un mythe andalou et le mot mythe n'est pas nécessairement péjoratif, mais qu'il existe une exaltation particulière de l'Espagne musulmane au regard du reste de l'islam en particulier, qui est née fondamentalement au XVIIIe siècle. En Europe, c'est-à-dire que au XVIIIe siècle en Europe, dans le souci de condamner l'Espagne chrétienne pour tout ce que l'Espagne chrétienne représentait et que les Lumières ne représentaient pas, c'est-à-dire le fanatisme, l'indolence économique, etc., on a exalté par contraste l'Espagne musulmane, c'est-à-dire ce que les chrétiens détestaient par l'Europe des Lumières avaient détruit.
Il faut dire que les vestiges de cette Espagne musulmane sont vraiment à nos portes et qu'il n'est que d'aller se promener un peu de l'autre côté des Pyrénées pour en percevoir encore aujourd'hui toute la magie. Voilà ce que nous dit Mélanie qui nous envoie un message par internet. Je me souviens du moment magique où j'ai découvert l'Alhambra. Donc elle parle de l'Alhambra de Grenade, j'imagine. Argentine. J'avais 10 ans, il faisait une grosse chaleur et je déambulais dans ces jardins magnifiques, frais et envoûtants. J'imaginais les femmes derrière les paravents, les eunuques silencieux. Elle est assez imaginative, Mélanie. Je n'ai jamais oublié cette magie. Elle m'a donné envie de découvrir, d'apprendre. Et elle m'a donné aussi la certitude que les métissages et les échanges qu'ils génèrent sont notre plus grande richesse. On peut dire, Malek Chebel, que Al-Andalus peut aussi faire office de modèle de civilisation.
Oui, tout à fait. Je pense que Mélanie est dans son bon droit, je dirais, de penser ça. Moi, j'ai à peu près vécu la même chose qu'elle, plus âgée quand même. Je pense que si quelqu'un voulait découvrir la civilisation andalouse en passant par l'Alhambra, il verrait la grandeur de point de vue, parce que c'est pas seulement de l'architecture, si vous voulez, muette. C'est aussi un discours de société, c'est aussi une façon d'être dans le monde, c'est aussi une façon de se positionner par rapport à la religion. Et on voit bien que les princes andalous ont une très haute idée, évidemment, de l'islam, parce que c'est truffé de versets coraniques un peu partout, calligraphiés dans le stuc, enfin, écrits de main d'homme. Hein. Mais en même temps, ils ont le souci de vivre l'ici et maintenant, dans toute sa face, dans son faste le plus explicite possible. Et il considérait, me semble-t-il, la vie d'ici-bas comme étant le préambule, le prélude au paradis de demain. Et du reste, dans la poésie arabe et dans la littérature arabe, on disait de l'Andalousie qu'elle était la fleur occidentale, pas opposition à la fleur orientale qui était Bagdad. Par opposition donc aux Abbassides.
Aux Abbassides,
tard,
oui, bien sûr.
Le Caire, les Fatimides. Donc, et l'Andalousie s'est faite en quelque sorte un peu par opposition, par contradiction, par opposition avec l'Orient fastueux qui était très. Bagdad, dans l'an 1000, était la plus grande cité du monde.
Hein. Et pourtant, Abd al-Rahman, celui qui va fonder le califat de Cordoue, le rescapé de cette espèce de massacre épouvantable de Damas.
Ils ont trucidé tout le monde.
Toute la famille, tout le monde. Et il était Omeyyade, lui.
Il était Omeyyade. Alors, attendez, Omeyyade, Abbasside.
Alors, il faut bien expliquer ça à nos auditeurs, parce qu'on ne va pas perdre tout le monde. J'aimerais qu'on.
Omeyyade, c'est la première dynastie de l'islam, au détriment de la Mecque. La Mecque donc, a donné l'islam. À Damas, s'est constituée la première dynastie Omeyyade.
Donc Omeyyade.
De Benu Omeyya. Et par la suite, une fois que les Abbassides ont trucidé les Omeyyades donc à Damas.
Les Abbassides qui vont s'installer à Bagdad.
Ils ont transféré leur capitale à Bagdad. Et là, ce sont les Abbassides. 7 siècles aussi, jusqu'à l'arrivée des Mongols. Bon. Nous avons là 2 pôles de civilisation. D'abord, évidemment, Omeyyade, mais très vite, Abbasside. Et par opposition aux Abbassides, il y a eu les Andalous. Et durant les 14 siècles d'existence de l'islam, nous aurons aujourd'hui encore, nous héritons de cette bipolarité entre l'islam d'Orient, l'islam d'Occident, et ces 2 grands pôles de civilisation que furent Bagdad, très important, au temps des Abbassides, les grands Abbassides, notamment Harun Rachid, très connu au temps de Charlemagne, et ses fils, qui étaient des protecteurs.
Le correspondant de Charlemagne, Harun Rachid.
Absolument. Qui étaient des protecteurs des arts et des lettres, qui étaient xénophiles, qui aimaient l'étranger, qui aimaient la diversité des religions, des cultures. Et donc, c'est quand même une société moderne, de ce point de vue-là. Et de l'autre côté de l'échiquier musulman, l'Andalousie, qui a véritablement eu le souci de créer une sorte d'Éden terrestre. Parce que la compétition, vous parliez tout à l'heure des parfums, de la jaspe, enfin de marbre, etc.
Cet aspect édénique des choses.
Bien,
oui.
À l'époque, ils ne faisaient pas concurrence de richesses matérielles, les bourgeois de Cordoue et de l'Alhambra. Ils ne faisaient pas compétition de richesses matérielles, mais de compétition du nombre de livres que chacun avait dans sa bibliothèque et éventuellement du nombre d'essences dans le jardin. Parce que quand on recevait dans les jardins, parce qu'il fait frais l'après-midi, et notamment autour de la mesquita, cette belle grande mosquée de Cordoue. Eh bien, c'était la rivalité était entre la qualité et la rareté des essences dans le jardin. C'est quand même, je trouve que c'est d'une certaine élévation
tout
ça.
C'est très civilisé, oui. c'est très spirituel. Alors quand on parle de cette civilisation andalouse, on parle de plusieurs siècles, hein, puisque ça va de 711 au moment de la conquête jusqu'en 1492, donc près de 8 siècles finalement. Quelle est la période de référence, si je puis dire. Quel est le cœur de cette civilisation d'un point de vue temporel? Parce qu'on a, on a assez bien placé, je pense, les choses maintenant sur un plan géographique. Il faut les placer, il faut les resituer en quelque sorte dans le temps. Gabriel Martinez-Gros.
Je dirais qu'il y a deux apogées. Il y a un premier apogée qui est celui qui correspond au califat des Omeyyades et la mosquée de Cordoue. Qui correspond
Donc ça,
à Cordoue.
C'est avant l'an 1000. Hein.
Ça, c'est avant l'an 1000 et un tout petit peu après, en 10e, 11e siècle, entre 900 et 1100, disons, Cordoue et Séville, qui a été sa petite sœur. Et puis, il y a le deuxième apogée qui est celui de l'Alhambra.
De Grenade, donc.
Peut-être est-ce un apogée à cause de l'Alhambra, et essentiellement à cause de l'Alhambra, mais alors là, c'est le 14e, 15e siècle, et c'est Grenade. Grenade est plus tardive, enfin l'apogée de Grenade est plus tardive que celle de Cordoue. Il y a eu d'abord Cordoue et la mosquée, et puis ensuite, donc construite pour l'essentiel au 10e siècle, avant l'an 1000, et puis Grenade construite au 14e siècle. Enfin l'Alhambra de Grenade construite au 14e siècle.
Alors juste après le flash de 14h, nous allons venir aux grands esprits de cette civilisation, à leur apport, aux grandes œuvres évidemment, à ce qui nous en reste, à nous aujourd'hui. Mais puisqu'on est dans ces vestiges encore, et que c'est Christian qui, par Internet, nous parle de deux exemples de cette architecture extraordinaire. L'église de Bobastro, nous dit-il, qui est une église rupestre qui se trouve au lieu dit des Messas de Villaverde, dans la commune des Ardales. Et puis l'église de Santa Maria de Melk. Donc tout ça, ce sont des églises récupérées d'anciens édifices musulmans, bien
non,
entendu.
Non. L'église de Bobastro est une église qui a été construite par le fameux Ibn Hafsoun, un très célèbre révolté du 9e siècle, qui se trouve dans la Sierra de Malaga, c'est-à-dire dans le sud de l'Espagne, où il existait de très nombreux chrétiens tout au long de l'époque
islamique.
C'est ce
qu'on appelle l'art mozarabe.
Voilà, exactement. Tout au long de l'époque islamique, il y a de très nombreux chrétiens dans l'Espagne musulmane.
Nous sommes dans un véritable jardin. On a presque l'impression qu'on entend les fontaines, Julia.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Malek Chebel, anthropologue spécialiste du monde arabe et de l'islam, et Gabriel Martinez-Gros, qui est professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université Paris 10, Nanterre. Franck.
Alors justement, Gabriel Martinez-Gros, nous sommes aujourd'hui baignés de toutes sortes d'héritages de cette culture arabo-andalouse, à commencer par le vocabulaire, en fait. C'est bien par l'Espagne que nous sont arrivés ces mots arabes qui peuplent aujourd'hui la langue française.
Absolument, et encore plus évidemment la langue espagnole.
Alors bien sûr, oui.
L'Espagne a été très marquée, l'Espagne chrétienne reconquérante a été très marquée par
elle
cette
l'est encore
culture.
Aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez frappant de voir à quel point c'est encore présent quand même.
Et elle est encore aujourd'hui, oui. Il y a eu un débat espagnol au 19e et au 20e siècle sur la part andalouse de l'histoire de l'Espagne qui a été extrêmement vif, mais aussi extrêmement approfondi. Il est évident que c'est un des pays où l'histoire de l'Espagne, comme disait Américo Castro, le grand penseur espagnol, un des pays où l'histoire de l'islam est indispensable. On peut faire, disait-il, l'histoire de l'Europe sans considérer les juifs et les musulmans, peut-être avait-il tort, mais enfin, peut-être, peu importe, c'est ce qu'il disait, mais pas l'histoire de l'Espagne.
Bien sûr, c'est comme si en Amérique du Sud, on ne parlait pas des populations précolombiennes. Oui. Ça fait vraiment partie du passé direct du pays. Alors, c'est un peu moins vrai en France, même si les Arabes, dans les années 710, 720, 730, sont allés très loin, jusqu'à Soissons, jusque même dans l'Est de la France, ont fondé même des communautés dans toutes ces régions. Le mythe de la bataille de Poitiers, ça nous entraînerait loin et ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça reste bien un mythe, une légende. Il n'y a pas eu de coup d'arrêt aussi net porté par Charles Martel à l'expansion arabe. Mais enfin, fermons, disons, cette parenthèse et revenons sur ce que nous devons aujourd'hui aux grands savants arabes de cette époque du Haut Moyen-Âge.
Oh ben c'est très clair. Hein. Pour l'essentiel, l'Europe a redécouvert ce qu'on pourrait appeler la science méditerranéenne ou la science gréco-arabe, je ne sais pas. Mm-hmm. Les spécialistes disent la science gréco-arabe, c'est-à-dire oui. l'héritage grec et ce qu'avaient ajouté à cet héritage grec les recherches arabes, à partir d'Al-Andalus, c'est-à-dire à partir de traductions exécutées en Espagne, pour l'essentiel au XIIe et au XIIIe siècle, par des hommes venus d'ailleurs de toute l'Europe, et qui s'aidaient souvent, parce que l'une des difficultés c'était la maîtrise de l'arabe, d'intermédiaires d'interprètes juifs, puisque la plupart du temps les élites musulmanes avaient quitté la péninsule, il ne restait plus que les juifs pour connaître l'arabe.
Donc disons bien clairement qu'une grande partie des travaux de tous ces savants, de tous ces philosophes arabes, etc., s'appuyaient eux-mêmes sur des travaux plus anciens hérités de l'Antiquité essentiellement grecque.
Oui. Mmh.
Donc, en fait, les Arabes ont été un passeur de la culture grecque qui ont enrichi ce savoir, évidemment.
Absolument, oui. Il faut insister sur cet enrichissement parce qu'en gros, c'est vrai que la science grecque connaît une forme de somnolence, je suis peut-être un peu rude, mais c'est quelque chose comme ça, entre le 3e et le 9e siècle de notre ère. Mm-hmm. Et ce sont les Arabes, d'abord ceux de Bagdad, bien sûr, il ne faut jamais oublier le pôle bagdadien, comme disait
fondamental,
Malek, qui est tout à fait fondamental. Et c'est de là, de Bagdad, que la science grecque traduite, enrichie, développée, interrogée, les hypothèses grecques sont pour une part fausses, on le sait déjà à la fin du Moyen-Âge islamique, on n'a pas encore tout à fait les hypothèses qui vont les remplacer, qui ne seront élaborées qu'au XVIIe siècle en Occident. Mais on sait déjà, on est déjà sur la route d'une recherche qui débouche sur la science moderne, qui va déboucher.
Alors justement, Malek Chebel, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte la plupart de ces grands penseurs, qu'il s'agisse de poètes, de mathématiciens, de philosophes, etc., d'exégètes, la plupart de ces grands esprits ne sont pas spécifiquement andalous. On les voit se promener à travers le monde musulmans au cours de leurs existences respectives.
Oui, ça c'est déjà la vertu, si vous voulez, de l'empire.
Quand on a
un empire,
la même chose avec les Romains, par exemple,
absolument.
Ou avec les Britanniques au 19e.
Ibn Battuta, le grand voyageur de l'époque, va voyager de Tanger jusqu'aux confins de la Chine, sans jamais, si je puis dire, dormir deux fois dans la même auberge ou dans le même caravansérail.
Dites-nous un mot de Ibn Battuta, justement, qui est un personnage tout à fait extraordinaire.
C'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'il est parti de chez lui, il est resté quasiment 22 années à l'extérieur de chez lui, parce qu'il est allé à la Mecque. À l'époque, on fait la rihla, c'est-à-dire le voyage à la Mecque, ce qu'on appelle aujourd'hui le hajj. Ils partent à la Mecque, à dos d'âne et à dos de mulet et tout ça, parce qu'il n'y avait pas évidemment le Concorde à l'époque, ni le Boeing, ni les facilités d'aujourd'hui. Et ils mettent entre trois mois et six mois, parfois un an, deux ans, pour arriver à la Mecque déjà. Parce qu'ils font des escales et là, il leur arrive d'étudier ou de rendre ces escales, ou d'être interprète, ou d'être juge, ou d'être, etc. Donc ils occupent des emplois un peu d'intérimaires sur le parcours. Arrivés à la Mecque, ils peuvent rester, donc ils font le pèlerinage, ils peuvent rester des mois autour de la Mecque et de Médine. Et puis après, si la curiosité les pousse vers Samarcande, vers Boukhara, vers l'Inde, vers la Chine, eh bien, on a eu des cas comme ça. Donc, Ibn Battuta le premier, mais aussi il y a Ibn Jubayr, il y a d'autres qui ont visité toute la même Laka, comme on dit, avec l'Empire musulman. Et c'est très étonnant. Mais si vous permettez, je reviens sur un mot sur le vocabulaire. Vous avez dit tout à l'heure le vocabulaire et le métissage des vocabulaires. En effet, la civilisation arabo-musulmane, arabo-berbéro-perso-turco-musulmane, si vous voulez, on l'emploie comme on veut, au fur et à mesure des cercles durant lesquels elle s'est agrandie et élargie, elle a intégré les vocabulaires autochtones et les populations, avec les populations. Et c'est la force de l'islam. Je pense que c'est la capacité qu'avait l'islam d'intégrer l'étranger, l'autre, quelles que soient ses spécificités. Puisque l'islam, en tant que religion, est très égalitaire. Aujourd'hui, on leur fait, vraiment, on leur fait payer très cher. Quand on fait des amalgames sur un certain nombre, d'ailleurs, tiens, le mot amalgame.
Que j'utilise vient de
l'arabe.
Oui.
Et je vais vous dire, je vais vous donner l'étymologie du mot amalgame que les gens utilisent sans connaître. Ça vient de l'expression arabe amel el-jama, c'est la relation amoureuse. le fait d'amalgamer l'union, si vous voulez.
C'est de la chimie au départ, donc.
Hein. C'est de la chimie amoureuse. C'est le fait de s'unir, le fait de, oui, de, voilà, de rentrer l'un dans l'autre. Un peu, ça parle évidemment de toutes sortes de produits. Donc, amalgamer, c'est faire l'amour. Ah, donc, de grâce, ne faites pas d'amalgame, parce que c'est des invitations amoureuses.
Si seulement ce pouvait être vrai. Je parlais de chimie et d'alchimie. Allez, encore un mot.
Alchimie, encore un mot. Oui. Alcool.
Et voilà.
Tout le paradoxe. Vous avez tout à l'heure cité de Ibn Khafaja, un passage sur le vin. Moi, j'ai fait une anthologie sur le vin et l'ivresse en islam. Et je suis très étonné de voir que toute la terminologie du vin est d'origine arabo-persane. Ce sont les Persans d'abord qui buvaient, les Arabes, et on traduisait tout ça, on conceptualisait tout ça dans l'arabe. Donc le mot alcool vient de l'arabe.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Extrait de la Saeta, c'est un chant de la Semaine Sainte andalouse, Franck.
Alors là, quand on parlait d'inspiration et d'imprégnation, c'est plus que direct. Alors, j'aimerais qu'on mette en exergue un certain nombre des grands penseurs de l'Andalousie. Et celui qui nous vient peut-être du fait de ce film magnifique qu'on a tous à l'esprit, mais c'est évidemment celui que nous appelons Averroès. Ibn Rushd, comment
dit-on ? Ibn Rushd, il a un nom à rallonge évidemment, parce que c'est une grande famille.
C'est comme Ibn Sina qui devient Avicenne en fait.
Oui, ça ce sont les transformations médiévales. Que les Arabes acceptent de bon gré. Ils estiment que les noms aussi voyagent et pas seulement les idées. Et donc Ibn Rushd, c'est le grand philosophe en effet andalou, musulman, arabo-musulman andalou, qui a marqué à la fois la philosophie universelle et la philosophie européenne en particulier. Un peu moins la philosophie arabe, on peut dire un mot tout à l'heure.
Oui, c'est ça d'ailleurs.
C'est très étonnant. Donc Ibn Rushd, qui marque la philosophie européenne pour avoir été le transmetteur, le commentateur, presque attitré, parce que même Ibn Tufayl et Al-Mansur et toute l'oligarchie de l'époque l'appelaient pour venir commenter des passages d'Aristote qui sont obscurs. Et pour lui, il pouvait les commenter très facilement. Et donc, il y a notamment un philosophe un peu plus tardif, il dit, il y a un passage d'Aristote que j'ai lu 40 fois et je n'ai rien compris. Il a fallu que je lise juste le commentaire d'Ibn Rushd et ça devenait de l'eau de roche, c'est transparent. C'est dire que la capacité qu'il avait à l'époque d'imposer une lecture d'Aristote.
Il ne faudrait pas pour autant, Malek Chebel, qu'on s'imagine que la vie lui a été facilitée.
Ah, pas du tout. Hein.
Ça n'a pas été facile, son existence.
Il n'a eu que des déboires.
Que des déboires.
C'était un philosophe, comme tous les philosophes, dans des systèmes relativement despotiques, voire autoritaires, théocratique, parce qu'avec la théocratie, on a une vérité qui descend du ciel, comme vous savez. Avec la philosophie, on a une vérité qu'on se fait soi-même, entre hommes, si je puis dire, de manière horizontale.
Donc là, il y a forcément une confrontation.
Et cette vérité-là ne plaît pas à tout le monde. C'est exactement comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les tenants de la vérité du ciel sont encore plus puissants que par le passé. Parce que néanmoins, Ibn Rushd était, c'est vrai, combattu.
Averroès, donc, pour ceux qui
pensent. Averroès était combattu autour de lui, parce que Al-Mansur l'aimait bien, mais en même temps, il y a des gens qui lui ont dit qu'il avait écrit des textes hérétiques contre l'islam. Donc, il a eu beaucoup de déboires avec les autorités politiques. Il a été chassé, il a été un peu, excommunié complètement, mais en tout cas chassé, anathémisé, mis au banc de la société. On n'est pas sûr s'il y a eu vraiment d'auto-da-fé autour de ses livres. Bref, il n'était pas tout à fait le bienvenu au palais. Par la suite, il a été réhabilité. Mais juste un point. Sur cette question-là, un grand philosophe, à la fin de sa vie, il se plaignait quand, en allant à la mosquée le vendredi à Cordoue, il était lapidé par des faux croyants, parce que les faux prophètes, il y a des faux croyants qui étaient nombreux au moment, à la fin de sa vie. Il était lapidé parce qu'il allait à la mosquée le vendredi avec son fils pour prier. C'est vous dire que c'est comme si vous lapidiez Lévi-Strauss quand il devait aller au Collège de France à la fin de sa vie. Vous voyez, c'est pareil, c'est le même sacrilège. Donc, qu'on a à Averroès, on a l'ancien temps, les temps anciens, et les temps nouveaux, et lui, il est au croisement de ça, c'est lui qui fait la bascule.
Et il est, pour une conception de la religion, entre guillemets, ouverte à la pensée, à la réflexion, à la philosophie, ce qui évidemment est...
Il y a une phrase de lui qui dit que la religion est une grande vérité, la philosophie est une petite vérité. Si la religion est une vérité vraiment, et si la philosophie en est une aussi, deux vérités ne peuvent jamais se contredire. Donc c'est la plus grande leçon que nous ayons de tolérance d'un grand philosophe qui était aussi qadi, c'est-à-dire grand juge. C'est l'équivalent de notre ministre de la justice aujourd'hui. Même Qadir Qoddat, c'est-à-dire le juge des juges.
Il a été en tout cas, oui, voilà, oui.
À la suite de son père, vous savez, c'est des charges qu'on hérite régulièrement. Donc il était le grand juge de l'époque. Et par conséquent, le poseur de loi, celui qui définit la norme et qui pose le curseur du légitime et de l'illégitime. Et il a été le plus ouvert des hommes.
Du reste, Gabriel Martinez-Gros, la dimension juridique est très importante dans cette société andalouse. On a l'impression que les juristes s'arrogent quasiment la première place, en fait. D'ailleurs, ils ont souvent une conception qui est une conception de jurisprudence et une conception assez modérée des interprétations de loi.
Dans l'islam en général, les juristes jouent le rôle que les théologiens joue dans l'Occident. L'islam est d'abord une loi destinée au jugement dernier, bien sûr, des hommes, et par conséquent, les juristes, ceux qui étudient la loi divine, entendant, il n'y en a pas d'autre a priori, ceux qui étudient cette loi divine sont en réalité, dans la mesure où il en a, les interprètes de Dieu et de la volonté divine à travers la lecture du texte du Coran, du Hadith et de l'ensemble des sources de la religion et du droit de l'islam. Donc c'est effectivement la fonction majeure.
Alors, puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un saut dans le temps et qu'on parle de Ibn Khaldoun, qui donc est un autre très grand penseur qui n'a pas passé l'essentiel de sa vie en Andalousie, il faut le dire.
Qui a passé les 25 dernières années de sa vie en Égypte, au Caire, parce que les ravages qu'avait infligé la peste en particulier, il est de l'époque de la peste noire, du XIVe siècle, les ravages qu'avait infligé la peste au Maghreb, et en particulier aux villes du Maghreb, lui paraissaient réduire à ce point la population de ceux qui étaient capables de l'entendre et de le comprendre, de ses étudiants en particulier, qu'il a préféré aller trouver au Caire.
Un professeur de sciences politiques, comment est-ce qu'on pourrait le définir ?
Tout à fait. Il était persuadé, lui, d'avoir inventé une science nouvelle, la science de la population, la science de la civilisation, en Maran, comme il dit. Et en effet, sa pensée est tout à fait surprenante, éblouissante.
Côté Tocqueville de l'islam, un peu, si je puis dire, sans vouloir me réapproprier.
Tout à fait. Lorsqu'il a été, entre guillemets, découvert, c'est-à-dire lorsque les Européens l'ont traduit au début du XIXe siècle, dans les premiers temps de ces traductions, sa pensée est apparue si proche de celle des philosophes des Lumières, voire des spécialistes des sciences politiques du XIXe siècle, qu'on a cru à un faux. On s'est dit qu'il n'était pas possible qu'un arabe du XIVe siècle écrive ça. C'était visiblement, il y avait beaucoup de faux à l'époque, qui circulaient en effet. Visiblement, ça devait être quelques malandrins ou quelques plaisantins qui avaient inventé un texte arabe. Mais non, il n'y avait là rien inventé. Il reste un mystère, c'est-à-dire comment ce texte a pu émerger de la société de l'islam du XIVe siècle. Alors, il y a des moyens de réduire le mystère, les historiens sont là pour ça, mais heureusement, ils ne peuvent pas tout et le mystère résiste.
Alors, vous parcourez évidemment dans votre ouvrage, ça s'appelle Ibn Khaldoun et les sept vies de l'islam, vous parcourez toute l'existence de ce personnage et on se rend compte qu'il y a non seulement un côté précurseur, mais il y a aussi une dimension presque atemporelle aussi. C'est presque pour le coup, il y a aussi une part de philosophie dans cette œuvre de Ibn Khaldoun.
Totalement. Il dit d'ailleurs que l'histoire est une hikmah. Il emploie le même mot que vous avez cité tout à l'heure, une sagesse. Mais en réalité, cela veut dire une philosophie ou une science, hein, en fait, dans la langue du XIVe siècle. Effectivement, le but d'Ibn Khaldoun est de transformer l'histoire d'un conte d'événements à une élaboration du passé qui puisse être, sinon mathématisée, du moins considérée comme une philosophie. Hein. Et il y a une véritable philosophie de l'histoire chez Ibn Khaldoun, c'est-à-dire que dans certaines conditions, telle et telle chose arriveront nécessairement. Voilà.
Déterminisme.
Alors, un poète andalou, Al-Rundi, écrit « Toute chose arrivée à son comble décroît, que nul ne soit séduit par de trompeuses joies, les décrets ont au fait, tu le vois, de changer, qui est heureuse un temps, s'expose à main danger. » Évidemment, cette civilisation andalouse, elle a fini par tomber. Il y a ce qu'on appelle la reconquête du point de vue des chrétiens espagnols. On est là donc à partir du début du XVe siècle.
Non, bien avant. Ça commence en fait la reconquête avec la prise de Tolède en 1085, mais ça dure très très longtemps jusqu'à la prise de Grenade.
Les tout débuts, évidemment.
Oui. Les tout débuts. Ce qui explique le flou qui entoure le destin des populations musulmanes, sans doute majoritaires. On pense qu'elles
étaient
majoritaires.
C'est une question d'ailleurs que nous pose, je ne sais plus ce que j'en ai fait, parce que je reçois tellement de messages là aujourd'hui. Voilà, c'est Karine qui nous dit « J'aimerais savoir ce que sont devenus les Maures quand ils ont été chassés d'Andalousie. Que reste-t-il de leur attachement à leur pays d'origine? Ont-ils gardé intact leur culture, langue, coutume au point de se sentir chez eux sur le continent africain? Ou bien est-ce qu'ils se sont intégrés, au contraire, à l'Andalousie ?» C'est toute la question du métissage qui se pose là, Malek Chebel.
Alors, tout à fait. D'abord, sur les Maures, on a plusieurs hypothèses, évidemment. Une partie est restée, elle s'est christianisée, judaïsée. Une autre partie est partie sur le Maghreb. Ce sont les gens, tous ceux qui vont amener la cuisine un peu maghrébine dans l'ouest algérien et le nord du Maroc. La musique, en particulier, est un héritage direct des Andalous. Et il y a une autre partie qui est allée jusqu'en Turquie. À l'époque, à cette même époque, évidemment, l'Empire ottoman, qui était un empire musulman, pouvait accueillir avec de bonnes conditions les gens qui étaient chassés, si je puis dire, d'Andalousie. Et donc, on a la question du métissage, une question centrale, parce que l'islam va favoriser ça. Et on a finalement, il y a un philosophe musulman, il dit on est grand que par ces métissages. On n'est pas grand par soi-même, on est grand que par la multiplicité des allégeances et des métissages. Et donc le métissage est porté et donné comme une loi dans cette civilisation qui a toujours été ouverte sur autrui et sur l'altérité.
Alors une civilisation qui se décline en plusieurs périodes, j'espère qu'on a bien compris, parce que nous avons été, nous, un peu hâtifs dans notre approche aujourd'hui, on a vu ça d'un peu haut, évidemment, donc qui se décline dans plusieurs périodes, et qui, vous l'avez dit tout à l'heure, reste une théocratie. Il ne faudrait pas idéaliser du tout ce système.
En tout cas, moi, je n'idéalise jamais. je rends à César vraiment ce qui lui appartient, en tout temps et en tout lieu. Je pense que l'islam est une grande civilisation et je dis toujours qu'elle sera encore plus grande. L'islam se grandirait, les musulmans se grandiraient. S'ils acceptaient la pluralité, s'ils acceptaient même ce que leur propose aujourd'hui la modernité comme alternative possible à une pensée fossile, à une pensée obscure, à une pensée fondamentaliste. Et c'est pour ça que je milite pour l'islam des Lumières. Je prétends que Ibn Khaldoun est un grand penseur des Lumières. Je prétends que Averroès est un grand penseur des Lumières, Avicenne aussi. Toutes les personnes qu'on a citées aujourd'hui ont été d'un apport décisif à l'islam lui-même et à l'ensemble de l'humanité.
Je renvoie Malek Chebel et Gabriel Martinez-Gros, nos auditeurs, à vos récents ouvrages. On va en faire la liste détaillée sur Internet. Merci beaucoup de nous avoir donné envie d'aller nous promener de l'autre côté des Pyrénées, de descendre vers cette Andalousie tellement pleine encore de tous ces beaux vestiges. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Jusqu'à 15h30 aujourd'hui, on va s'intéresser à nos collections atypiques. Plusieurs millions de Français consacrent leur année à une passion, que ce soit les timbres, les pièces ou encore les étiquettes de bouteilles de champagne, les grenouilles, les chèvres, les vaches évidemment. Pour ce qui est de Franck, c'est une vraie collection de grenouilles chez lui,
oui.
C'est ça.
Oh là là, fini.
Il paraît qu'il y en a partout.
Ne dites pas ça parce que je sais que certains auditeurs vont m'en envoyer.
Et voilà, c'est ça.
Alors
c'est pas vrai du tout, je vous le dis tout de suite. Et bien pendant une heure, on va parler en tout cas de ces collections improbables. Comment peut-on les expliquer? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? dire de nous, ces collections, et si justement elles nous ramenaient à nos peurs, à nos angoisses. On va en parler tous ensemble. Vous nous appelez hein, si votre mari est dans ce cas et qu'il multiplie les collections. 39-21 pour nous joindre en direct sur Europe 1, Franck.
Et nous, nous collectionnons les bons moments, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est
quel
vrai.
Quel à propos, c'est magnifique.
Et il me manque déjà.
À demain, Julie.
À demain, Franck.